Bonjour à tous. Je suis heureux de vous trouver ici ce matin. Merci à l'invitation du pasteur Tony. Heureux de rencontrer, faire connaissance avec l'Église. Et j'ai reçu l'instruction de rester sur le thème de l'Église ce matin. Donc on va parler un peu de l'Église. Et c'est vrai que c'est quand même une construction assez extraordinaire, l'Église. Ça rassemble des gens très, très différents, avec des passés très différents, avec des manières de voir très différentes. Et voilà que nous formons, nous sommes censés former un seul corps. Et ce n'est pas évident d'ailleurs. Alors, j'ai été pasteur d'une église pendant 25 ans. Et au cours de ces 25 ans, on a vécu que du bonheur, que de l'amour fraternel, que de la joie profonde, que de l'encouragement réciproque constant. Et je mens très mal. En réalité, parfois, l'église est compliquée, n'est-ce pas? Enfin, je sais que dans la région parisienne, toutes les églises sont parfaites, mais nous, on vient un petit peu du sud, Lyon, comme ça, il y a beaucoup plus de pêcheurs là-bas que dans cette belle région de France. Mais en tout cas, quand on regarde la manière dont la Bible parle de l'Église, la Bible utilise un certain nombre d'images qui sont censées nous informer de la représentation qu'on doit se faire de l'Église. Les métaphores, les images, elles sont clés pour qu'on conceptualise ce que l'Écriture enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois images principales qui sont utilisées, il y en a plus que trois, mais les trois images principales qui sont utilisées pour décrire l'Église sont universelles. C'est-à-dire qu'elles sont compréhensibles dans toutes les cultures du monde, sur l'ensemble de la planète. Et la première image, alors c'est un peu flou, mais je vais vous les décrire, enfin c'est que des illustrations. La première image qui nous est donnée, c'est l'image du couple. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Extraordinaire quand même. Et ça donne une dynamique relationnelle vis-à-vis de Jésus. C'est-à-dire que l'Église est un ensemble d'hommes et de femmes qui considèrent que Jésus est leur mari, leur conjoint. Il y a comme une sorte de d'épanchement d'amour à l'égard du Christ, et bien sûr du Christ à l'égard de son Église. L'épouse de Jésus-Christ. Une image extraordinaire hein, de se voir ici comme ça, on est ensemble l'épouse de Jésus-Christ. Et ça nous entraîne dans une dynamique qui est à la fois faite d'affection, d'émotion, de respect, d'expression d'amour, d'adoration, tout ce qui pourrait s'associer à l'émerveillement du couple tel qu'on devrait le vivre. La deuxième image que l'on a, c'est l'image du corps. Un corps, on sait tous ce que c'est, et un corps a des fonctions différentes en son sein qui assurent la vie et la survie de ce corps. Et de se représenter l'Église comme un corps, c'est tout de suite reconnaître qu'on sera forcément différent. Et que non seulement on sera forcément différent, mais qu'on va contribuer les uns les autres différemment au fonctionnement du corps. Et que c'est une bonne chose. C'est dommage si une Église forme des clones. On n'est pas des clones. On est chacun avec des dons différents. Il y a des petits doigts, il y a des genoux, c'est cette image que l'on trouve dans l'Écriture qui montre qu'ensemble, on peut former un corps. L'image du corps, elle est aussi l'image de la représentation. En réalité, Jésus est parti de cette terre, il reviendra un jour établir son règne, probablement aujourd'hui, c'est comme ça que la Bible en parle. Si vous pensez à une autre date, c'est un faux prophète qui vous l'annonce, hein. C'est aujourd'hui que Jésus revient, et donc chaque jour on peut se dire Jésus revient aujourd'hui. Mais un jour il viendra établir son règne, mais là pour l'instant il est absent. Il a envoyé son Saint-Esprit pour que nous soyons baptisés en un seul corps. 1 Corinthiens 12 nous le dit en ces termes. 12-13, pardon, nous le dit en ces termes. Et la perspective que nous avons, c'est que nous représentons Jésus. Si nous sommes le corps de Christ collectivement, ça veut dire qu'ensemble, nous reflétons Jésus. Ce qui soudainement devient un peu un défi, parce que quand les gens viennent vous voir, est-ce qu'ils voient Jésus ? Alors je sais, ça peut être un peu écrasant, mais est-ce qu'ils voient dans vos relations ce à quoi Jésus ressemble ? C'est soudainement important la manière dont on vit l'Église. Et moi, je me souviens, étant né dans une famille absolument antichrétienne, les premières fois où j'observais les chrétiens, c'était un peu une planète à part, des gens bizarres, C'est vrai, on est un peu bizarre. Vous trouvez pas? Franchement, on est bizarre. On chante des chants, on parle à Dieu, on vit quelque chose et on est très différent, on passe du temps ensemble, on étudie la Bible. On est des gens bizarres, pour le monde. Mais il y a quelque chose que le monde n'offrait pas et que je pouvais voir dans ces gens bizarres dont je fais maintenant partie, c'est qu'ils s'aimaient les uns les autres et ils reflétaient une qualité de vie et une complémentarité que je ne pouvais pas trouver dans le monde. Et c'est une des choses qui m'a marqué, c'est que moi, mon monde de potes, on était bien ensemble à condition qu'on se taille les uns les autres, qu'on s'humilie un peu les uns les autres. Ça, c'était ça qui était drôle. Et je suis arrivé dans la tribu des chrétiens et les gens, ils s'aimaient et ils s'amusaient en même temps. Enfin, ils étaient joyeux. Mais sans l'aspect un peu du monde. On est le représentant, le corps du Christ sur terre. Et ça, c'est une longue tradition. Quand Dieu a créé l'homme à son image, il a voulu que l'être humain soit son représentant, son représentant. Et dans l'Église, collectivement, nous sommes la représentation de Dieu. Et puis, une troisième image que nous trouvons, c'est celle d'un temple. Et toutes les sociétés ont conceptualisé cette notion de lieu sacré, d'espace sacré. Alors, l'espace sacré, ce n'est pas les quatre murs. L'espace sacré, c'est les cœurs des uns et des autres. Nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit. Et cela, chacune de ces images nous donne une représentation de la vie de l'Église. Et c'est bien d'avoir en tête ces images parce qu'elles doivent orienter notre manière de concevoir l'Église. Et effectivement, il y a aussi d'autres aspects que l'on peut trouver d'autres descriptifs que l'on peut trouver dans l'Église, et notamment l'image de la famille. Par exemple, l'apôtre Jean écrit « Je vous écris, père ». Donc il y a parmi nous des pères, des gens qui ont une certaine maturité spirituelle, capables d'entourer et d'encourager. Il y a aussi des petits-enfants, ce que je trouve admirable maintenant que je suis devenu grand-père. C'est magnifique d'avoir des petits-enfants. Il y a dans l'Église des petits-enfants, qui sont d'ailleurs pas si faibles que ça, parce qu'ils ont la victoire en Christ, ils ont toute la fougue de la passion pour Jésus. Paul écrit d'ailleurs aux Corinthiens que vous n'avez pas plusieurs pères et le fait que nous ayons été adoptés fait que ensemble nous formons une même famille. Et probablement que la métaphore de la famille est la plus connue. Éphésiens chapitre 2, verset 19 nous dit que nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Waouh! On a le même père, on est adopté dans une même famille, on est ensemble à former une même famille. Alors, il ne faut pas pousser les métaphores trop loin, parce que si vous poussez la métaphore de la famille trop loin, c'est un peu un clan. Un clan qui n'admet pas trop des étrangers qui rentrent. Et parfois, certaines églises, elles sont trop claniques. Dans le sens, il y a nous, et quand quelqu'un rentre, on ne sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Enfin, je ne sais pas si l'expression est appropriée, mais vous voyez ce que je veux dire. Et on est une famille, mais on est aussi une famille ouverte parce que Dieu continue d'ajouter à l'Église ceux et celles qu'il entend sauver. Mais en même temps, c'est vrai que la métaphore de l'Église en tant que famille est belle parce que ça témoigne, dénote le lieu d'amour, ou en tout cas ça devrait l'être, un lieu où il y a des traditions et des habitudes. Et j'observais, vous avez une forme d'Église qui reflète votre famille d'Église. Une famille partage ensemble des repas. Et on mange ensemble, et c'est ce que l'on a fait symboliquement aussi, ici. Une famille, c'est un lieu de réconciliation, ou en tout cas, ça devrait être. Et très souvent, bien sûr, quand on n'est pas dans une famille unie, c'est le cri du cœur. Hein, on sait combien c'est douloureux parfois, des familles qui sont désunies, on sait qu'on aspire à cela. Alors, on va lire un texte de l'Écriture, écrit par l'apôtre Paul en Éphésiens, au chapitre 4, où on voit l'unité que Dieu voudrait que l'on puisse vivre dans chaque église locale et bien sûr dans l'église universelle. Un jour, ce sera une réalité absolue quand Christ sera revenu, et en attendant, c'est une exhortation très ferme que nous lisons de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 1 et jusqu'au verset 6. Donc voilà, soit vous ouvrez vos Bibles, soit vous l'allumez, je ne sais pas avec quoi vous êtes venu, mais Éphésiens 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'était la parole de Dieu. Quelques remarques que je livre à votre réflexion maintenant. Et la première remarque que je voudrais faire, c'est de partir à la fin du texte. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la fin du texte, il est question de Trinité? Vous voyez où on en parle? Vous pouvez les identifier? C'était une question. Vous pensiez que j'allais faire tout le travail ce matin? Vous le voyez? Verset 4, on a, il y a un seul corps et un seul esprit. Hein, okay. Au verset 5, on a quoi? Un seul Seigneur, ça nous rappelle qui? Jésus. Dans une église, Jésus, c'est toujours la bonne réponse. C'est toujours à l'école du dimanche, hein, quand il y a Jésus, c'est toujours la bonne réponse. Et ça, voilà. Effectivement, en tout cas, vous avez raison, il y a Jésus, le Seigneur. Et puis ensuite, à la fin, au verset 6, on a quoi? Dieu le Père. Et donc, on a le fondement que je vais un peu développer tout à l'heure, mais que je voulais relever dès le début, c'est que le fondement de notre famille, c'est la Trinité. Alors, ce n'est pas que la famille, enfin, que Dieu est une famille, parce qu'il est un, indivisible et seul, unique. Mais néanmoins, notre Dieu est un et il est trois personnes. Ne me demandez pas comment ça marche, je le reçois de l'Écriture et c'est quelque chose qui est extraordinaire et le fondement de la vie de l'Église. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'étais devant ce texte que vous trouvez à gauche en Jean 17, 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Réfléchissez un instant à ce verset extraordinaire. Jésus s'apprête à vivre l'horreur de la croix pour nous, et il sait qu'il va remonter auprès du ciel, auprès du Père. Et il dit, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je ne sais pas si on peut se représenter, mais avant que le monde existe, il n'y avait que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et en fait, ce Dieu unique, un seul, indivisible, qui est aussi trois personnes, célébrait la vie qu'elle avait en Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait dans le regard du Père et du Fils un émerveillement du Père vis-à-vis du Fils. La gloire faisait partie de la vie de la Trinité. De toute éternité, c'est comme si Dieu dansait à cause de Dieu, à cause de la beauté. La notion de gloire, c'est la notion de poids, de majesté, de force. Et voilà que le Père et le Fils se regardaient dans un émerveillement. Vous savez pourquoi on chante le dimanche matin? On chante simplement parce que Dieu est digne de cela et on rejoint la louange qui existe dans le ciel. Parce que maintenant et pour toute l'éternité, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit loue Dieu. Ça semble étrange, n'est-ce pas? Mais quand on y réfléchit, il y a un autre texte que l'on aime beaucoup, qui est souvent d'ailleurs mal cité, hein, « Dieu est amour », comme si tout le reste n'existait pas. Dieu est amour. C'est en fait important, c'est une des descriptions les plus courtes que nous ayons de la personne de Dieu. Mais réfléchissez à ça. Dieu ne peut pas être amour s'il n'est pas Trinité. Parce que imaginez que Dieu soit selon un schéma monothéiste strict, juif, musulman. Ben Dieu, pendant toute l'éternité, il est seul. Mais seul, seul, seul. Comment il sait qu'il est glorieux? Ben en fait, le fait que l'on voit que quelqu'un est glorieux, ça exige la vision d'un tiers. Comment il peut être aimant s'il est seul? peut pas s'aimer le nombril, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. L'amour exige qu'il y ait un tiers, qu'il y ait une autre personne. Et donc la Trinité est un fondement nécessaire à la personne de Dieu, et on le reçoit de l'Écriture comme ça. Dieu est de toute éternité, Père, Fils et Saint-Esprit. Et en même temps, il est ce qui nous permet de savoir ce qu'est l'amour, parce que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivent une relation d'amour de toute éternité, et c'est à cause de cette relation trinitaire que l'on peut lire que Dieu est amour. Dieu ne serait pas amour s'il était dans un monothéisme strict, il est dans un monothéisme trinitaire. Et ça devient le fondement de la vie relationnelle que nous avons, et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet avec ce texte. Le premier point que je voudrais noter avec vous, c'est le commandement pour l'unité. Vous avez remarqué au verset 1, l'apôtre Paul écrit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Paul adresse son exhortation alors qu'il est emprisonné, incapable d'intervenir directement dans cette église qu'il aime profondément. C'est l'une des plus belles églises du Nouveau Testament, je crois. Et je suppose qu'il a les mêmes sentiments du parent qui voit son enfant partir pour ses études et qui ne peut plus intervenir de la même manière. Je ne sais pas si vous êtes parent ou vous avez vécu cela, de voir vos enfants partir au loin et puis ils doivent gérer maintenant les choses. Connaissez cet adage, quand le chat n'est pas là, vous avez aussi des souris chez vous et des chats, mais probablement qu'il est là dans cette situation un peu d'inquiétude et d'anxiété, et il voudrait que l'Église continue. Et l'Église a toujours eu ce danger, je crois, l'Église d'Éphèse, de dépendre trop de ses leaders. On sait que Apollos, Paul, Timothée, l'apôtre Jean plus tard prendra sa retraite à Éphèse. Donc l'église d'Éphèse avait des stars comme leaders. Et Paul est inquiet que l'église dépende trop de ses leaders. Et donc il les exhorte alors qu'il est loin et qu'il est prisonnier à cause de son ministère à marcher d'une manière digne. On a une histoire assez touchante en 2 Chroniques 24, pas nécessaire de prendre le texte, je vous le raconte, mais on lit l'histoire d'un roi pieux du nom de Joas. Et sa piété était forte tant que vivait son mentor, son conseiller, Jehoiada. Et tant qu'il était là, c'était un homme qui aimait Jésus, enfin qui aimait Dieu tel qu'il pouvait le comprendre avec les données et les révélations de son temps, vraiment attaché au Seigneur. Puis Jehoiada, son mentor, son pasteur, son leader, meurt. Et voilà ce que nous lisons. Après la mort de Jehoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta, ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et rendirent un culte aux Akéras et aux idoles. C'est trop dommage. Il avait tellement vécu correctement pendant des années, et voilà que son mentor s'en va et il se laisse emporter par le conseil des autres. Et donc, Paul est conscient là qu'il a besoin d'exhorter, et finalement, c'est notre devoir à tous, non pas de vivre notre vie chrétienne parce que d'autres la vivent, mais de vivre notre vie chrétienne parce que nous aimons Jésus profondément, parce qu'il est celui qui nous a rachetés, et nous vivons auprès de lui par ce sentiment personnel de redevabilité et de vie en lui. Et Paul n'est plus présent, alors son appel ici est chaleureux, c'est un mot qui est utilisé pour parler un peu comme un père parlerait à un ami, enfin un ami entre eux, et on le trouve assez souvent. Et qu'est-ce qu'il dit? Ben, marcher de manière digne. Marcher, c'est pas courir, hein. La vie chrétienne, elle n'est pas faite d'un sprint, elle est faite d'une marche. On a besoin de détermination, de direction, de persévérance. La vie chrétienne, elle est faite de cette routine quotidienne pour aller de l'avant jour après jour après jour. Et c'est vrai que quand on marche, je ne sais pas si vous aimez la randonnée, mais j'ai le privilège de ne pas être trop loin de certains lieux magiques, enfin magnifique plutôt, où on peut faire des randonnées, et c'est vrai qu'on passe par des endroits étroits, des descentes, des montées, des passages. Je me dis, ça, c'est trop la vie chrétienne. On passe par des moments durs, on passe par des moments exaltés, on passe par... Mais on doit marcher. C'est un pas après l'autre qu'on avance. Et ça m'arrange, parce que j'aime pas courir. Puis en même temps, notre marche, elle évoque un peu comment... ce que l'on est. Hein, quand vous voyez quelqu'un qui marche comme ça, vous dites, ouh, lui, il n'a pas beaucoup dormi cette nuit et il a bu un certain nombre de choses, n'est-ce pas? La marche, elle reflète, hein, les gens qui sont toujours préoccupés de ce qui se passe devant pour ne pas marcher sur une crotte de chien. Il y a une personnalité, quand on observe les gens, si vous prenez un café à Paris, vous regardez les gens marcher, on peut presque lire les personnalités. Et la marche, elle doit refléter, ici, la vocation que Dieu nous a adressée. C'est quoi la vocation ? Il est ici question de une marche digne. Le mot a la même connotation que les balances d'avant. Vous savez, quand on essayait de mesurer un poids, on mettait ce qu'on voulait mesurer, puis progressivement, on mettait l'équilibre pour savoir quel poids faire, enfin, quel poids ça faisait. Et l'idée, c'est que du chapitre 1 au chapitre 3, et que nous avons abordé en partie, il y a plein de privilèges que nous avons en tant que disciples de Jésus. Ben maintenant, il faut les vivre. Ça, c'est le côté de la balance. Nous sommes saints et fidèles, Éphésiens 1:1. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Ça, c'est 1:3. Nous sommes des élus de Dieu. Ça, c'est 1:4. Etc., etc., etc. Ben Dieu dit, ben, vis comme ça. Et moi, je me souviens, le G7 est venu un jour dans la ville de Lyon. Et la ville de Lyon recevait ses responsables des nations, et on habitait dans la ville à ce moment-là, et il y a le secrétaire d'une de ces grandes nations qui est venu faire un saut dans la rue à côté de là où nous étions. Donc on se baladait avec ma femme et nos enfants, et puis on a vu la voiture blindée, accompagnée de toute une série de gendarmes, protecteurs, enfin de gardes du corps. Et là, il y a une petite dame qui sort d'une voiture, qui est simplement la secrétaire d'une de ces nations. Mais je peux vous dire, elle marchait comme si elle était le pape, enfin, ou en tout cas le président de la République. Elle représentait sa nation, et elle était fière de cela, et ça se voyait. C'était mignon d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est un être humain comme tout le monde. Mais elle marchait avec... Et je me dis, c'est un peu ça, le chrétien, il doit marcher selon ce qu'il est devenu. Ce qu'il est devenu, c'est sa vocation, saint, fidèle, élu. Mais maintenant, il faut que je marche comme cela. La sanctification dans la vie chrétienne, ce n'est pas j'agis pour être saint, c'est parce que je suis saint, je vis différemment. C'est très différent comme mentalité. La sanctification qui vient de la grâce, c'est parce que Christ a fait grâce dans ma vie de mes péchés. Je veux vivre différemment. La marche chrétienne, c'est ce que l'on sait de Dieu. Elle part de ce que l'on sait de Dieu pour la mettre en pratique. Et donc Paul exhorte à partir du chapitre 4 d'ailleurs à une vie digne de Christ, c'est-à-dire unie, ça c'est ce que l'on voit des versets 1 à 16, et puis il y a les questions de la pureté, de l'harmonie, etc. Il y a plein d'exhortations qui suivent dans l'épître aux Éphésiens qui commence à partir du chapitre 4. Et voilà l'exhortation. Que l'on puisse voir à votre marche individuelle et collective que vous êtes des enfants de Dieu. Quand quelqu'un vous voit vivre et dit « Waouh ! À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Vivre d'une manière digne, ça doit se voir. Ça doit se voir dans la manière dont on marche. Et le deuxième point que l'apôtre Paul souligne, c'est le comportement qui favorise l'unité. Versets 2 et 3, « En toute humilité, douceur, patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Paul utilise ici trois noms et deux verbes pour présenter cinq vertus chrétiennes, et que je vais parcourir rapidement. La première, c'est l'humilité. En toute humilité, on doit se comporter en toute humilité. Et c'est difficile l'humilité, vous ne trouvez pas ? Moi je me souviens, je discutais avec notre fils, il n'était pas très grand et je ne sais pas pourquoi on était un petit déjeuner ensemble Et il devait avoir, je ne sais pas, 9 ans, 8, 9 ans, 10 ans, je ne sais plus maintenant, mais on prenait un petit déj un samedi matin. Et je ne sais pas pourquoi le sujet de l'humilité est venu. Et il comprend que l'humilité, c'est une vertu. Alors il me regarde, il me dit, ah, d'accord. Papa, je suis humble, moi, je suis humble. Et je lui dis, ah, Jordan, c'est... Ben, d'abord, je suis très content, mais en même temps, le problème, c'est que si tu dis que tu es humble, c'est que tu l'es plus. Ah, il réfléchit, il dit, ah ouais. Non, je suis pas humble, je suis pas humble, je suis pas humble. Et je dis, mais écoute, c'est super, Jordan, mais si tu crois que tu es pas humble, c'est presque l'orgueil de croire. Vous voyez, c'est un cercle vicieux, l'humilité. C'est compliqué. Pourtant, l'apôtre Paul écrit en Actes 20, 19, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Et avoir de l'humilité dans une église, c'est super important. Ce n'est pas la petitesse d'ambition. Moïse était un homme humble plus que tous les autres et c'était un super leader. Donc, ce n'est pas une question de moi, je suis humble, je reste dans mon coin. L'humilité, c'est simplement la volonté de s'identifier aux choses qui ne sont pas remarquables. C'est un regard juste sur ses capacités. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, qu'as-tu que tu n'as reçu? Tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Donc, tu n'as pas à te vanter. Donc, on peut avoir conscience des possibilités que l'on offre au royaume de Dieu ou que l'on offre à la société par vocation, mais en sachant que ça vient du Seigneur. Donc, on n'en prend pas le crédit. Chaque fois qu'on nous offre des fleurs, on le renvoie à Christ. C'est aussi une considération favorable, aimante, respectueuse sur les autres. Philippiens 2 nous dit, ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. L'humilité, c'est reconnaître aussi les autorités dont on dépend. On sait dans quel rapport on a avec les uns et les autres. De même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, par exemple. Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité. Imaginez dans l'église si chacun se disait, moi, je suis supérieur à toi. Hein. Ce serait assez terrible. Ça n'arrive jamais, ça n'arrive jamais. Mais si ça arrivait, ça serait terrible. Je me souviens du roi Saül. Le roi Saül, lorsqu'il déchoit de sa royauté, le prophète Nathan vient le voir et lui dit, n'es-tu pas devenu roi, quand tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu roi en Israël? Et finalement, c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas tellement ce que les gens disent de vous, c'est ce que toi tu dis de toi-même. C'est comment tu te regardes toi. Et Saül, comme il se voyait comme quelqu'un de grandiose, ben il n'avait pas l'humilité, il s'est planté lamentablement, il était déchu de la royauté. Dans un excellent livre, Timothée Keller écrit ceci, et ça, le livre s'intitule La liberté dans l'oubli de soi. L'essence de l'humilité évangélique n'est pas de se sous-évaluer, ni de se surévaluer, mais simplement d'être moins centré sur soi. L'humilité selon l'évangile consiste à ne pas devoir penser à soi, ne pas devoir ramener les choses à soi. La véritable humilité selon l'évangile signifie un ego qui n'est pas gonflé, mais rempli. C'est beau comme texte. C'est qu'on ne se centre pas sur soi, on se centre sur les autres, sur Christ. On est heureux de ce que l'on fait, on est heureux de ce que l'on a. Il y a quelque chose qui exalte celui qui œuvre en nous et on est juste rempli de lui. Une deuxième vertu, c'est la douceur. Et là, Paul suit le même ordre que nous trouvons dans les béatitudes. Vous savez, dans les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et le pauvre en esprit, ce n'est pas quelqu'un qui est pauvre financièrement, c'est quelqu'un qui est pauvre spirituellement. C'est comme ça qu'on vient à Jésus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'on vient à Jésus les mains pleines. On dit, ben alors, Jésus, je viendrai à toi quand je serai pur dans mes pensées, quand je serai gentil dans mes paroles, quand je serai bon dans mon métier, quand j'aurai des galons, alors je viendrai à toi. Jésus, il dit, non, ça ne marche pas comme ça. Tu viens dans la faillite, tu viens à genoux. Tu viens à genoux. Tu manges la poussière. Tu reconnais que tu es vide, creux, que tu n'as rien dans les mains. On vient à Jésus, pécheur que l'on est. Pauvre en esprit, c'est reconnaître la faillite spirituelle qui est la nôtre. Et Dieu dit, ah, le royaume des cieux est pour toi. Et puis ensuite, le deuxième vertu, qualité qui nous est proposée dans les béatitudes, c'est la douceur, heureux les doux. On pense que les forts seront dans le royaume où ils hériteront les choses. Mais non, non, c'est les doux. Et c'est vrai que quand on s'est humilié par la repentance, alors on ne juge pas les autres. Et finalement, la douceur, c'est ce refus de juger, c'est ce refus d'exercer cette dureté vis-à-vis des autres, parce qu'on réalise qu'on est tous pécheurs et qu'on a besoin de la même grâce et qu'on a besoin de cheminer ensemble. Quand je vois la douceur du Christ devant ce roitelet qu'était Pilate, c'est extraordinaire. Cette conscience de cette force sous contrôle, de laisser à Dieu le soin de diriger la vie. Cette douceur que nous devons d'ailleurs donner dans notre témoignage à ceux qui nous entourent. 1 Pierre nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Douceur et respect, une qualité d'un chrétien, y compris dans son évangélisation. La douceur, ça devrait être la qualité qui fait que l'on s'accueille les uns les autres avec bienveillance. Parfois, c'est difficile, hein? Parfois, c'est difficile. J'ai une nièce qui travaille auprès des réfugiés somaliens dans un pays, et elle voit une culture qui est extrêmement violente et extrêmement dure. Et elle est constamment bombardée de cette dureté. Et de pouvoir manifester l'attitude du Christ, c'est pas évident. Il y a des émotions très fortes qui vont à l'encontre de manifester ce contrôle, de vouloir se venger, de pas se venger. Et c'est justement la troisième vertu, la patience. Dans l'original, c'est un composé de deux mots, loin de la fureur. La patience, c'est de voir tout ce que l'on a envie de voir changer dans le monde. Est-ce qu'il y en a ? Waouh, il y en a trop. Parfois dans l'Église, est-ce qu'on voudrait changer les choses dans l'Église ? Souvent, il y en a trop. Et de pouvoir se retenir et d'être patient, de regarder à long terme et de savoir répondre non avec violence, mais avec bienveillance. L'apôtre Paul dira « Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien ». Et d'ailleurs, c'est une exigence, cette patience, alors que l'on est confronté souvent à des humiliations récurrentes. Ma fille travaillait dans une grosse boîte, elle était juste à la sortie d'études de commerce, et son supérieur hiérarchique l'humiliait tous les jours. Et c'est super dur à vivre, en fait. C'est super dur à vivre. Et elle a dû apprendre que la patience, c'est aussi pardonner immédiatement, c'est aussi pardonner et prier, et ne pas trouver dans le regard de l'autre la source de son identité. Ce qui nous conduit à deux verbes que nous avons, se supporter les uns les autres avec amour. Alors, le sens de supporter peut jouer dans le sens de Coupe du Monde, je suis dans cette équipe, mais c'est aussi supporter dans le sens de endurer. Et c'est marrant parce que c'est pas très romantique, cette vision des relations humaines. Mais si on est réaliste, on réalise que parfois, les relations humaines, ça exige de serrer les dents et de se supporter. Je ne sais pas si ça fait écho à cela dans votre église. Mais dans la nôtre, alors je sais que c'est enregistré, mais elle ne l'écoutera pas, il y a une personne, chaque fois que je venais le dimanche matin, chaque fois, elle me critiquait pour ne pas lui avoir fait la bise. Alors, un dimanche, c'est rigolo. Deux dimanches, c'est rigolo. 52 dimanches par an pendant 10 ans, c'est moins rigolo. Et il y a quelque chose en moi maintenant qui est très tendu chaque fois que je vais dans cette église à cause de ça. Et je me dis, c'est ridicule. On doit se supporter. Chaque fois qu'elle vient et qu'elle me fait cette même reproche, parce qu'on était 300 personnes, c'est pas toujours facile de passer par tout le monde. Et chaque fois qu'elle se met, je me dis, Seigneur, bénis cette femme et accepter de supporter. Et puis s'efforcer, c'est conserver aussi cette unité par les efforts que ça exige. Ne rien faire pour cultiver l'unité, c'est le meilleur moyen de briser une équipe. L'unité dans l'Église, ça passe par un effort monumental. c'est important de faire des efforts pour cela. Alors, je sais que parfois les églises se divisent, et elles se divisent pour plein de raisons. Et je me souviens d'une personne qui est venue me voir, elle avait fait 6 mois d'un institut biblique, alors elle pensait qu'elle avait maintenant tout compris de la vie chrétienne, de la Bible et de l'Église. Elle est venue me voir avec une liste de 34 points à changer. Elle m'a dit, non, c'était pas 34, c'était 19, pardon, c'était un autre pour autre chose. 19 points à changer dans la vie de l'Église ou bien il partait. Et j'ai même pas regardé la liste, je lui ai dit, tu pars quand ? Parce qu'on peut pas vivre une vie d'église sur le chantage. Parce que même si on faisait les 19 changements qu'il voulait, le lendemain, il y en aurait 10 autres. Et puis finalement, c'est lui qui devenait le grand Manitou d'une église. Il n'y a pas de grand Manitou dans une église. Et donc, ce genre d'attitude, ça brise. Et parfois, dans l'église, il y a des gens qui ont vraiment des attitudes. Là, il est question de caractère, d'attitude. Et il y en a qui ont des attitudes détestables, mais comme ils savent suffisamment que ce n'est pas une bonne chose, ils vont trouver des raisons doctrinales. C'est-à-dire que j'ai rarement vu quelqu'un qui vient voir le pasteur ou les anciens d'une église en disant « Je m'en vais parce qu'en fait, dans mon cœur, je suis pécheur et je ne supporte pas ce que vous êtes. » Ça, ce serait masculin, enfin, si c'est un homme qui le disait, c'est vrai. Je prends la responsabilité des choses. Souvent, les gens viennent, ils disent « Je pars de cette église » et après, ils vont vous trouver 2-3 virgules dans la confession de foi qu'ils n'aiment pas, qui est mal placée, pour justifier leur départ. Parce que là, ça devient spirituel. Je pars pour des raisons doctrinales. Et c'est vrai que parfois, il y a des raisons doctrinales de quitter une église, tout à fait. Mais dans mon expérience de pasteur, ça a rarement été le cas. Les gens sont surtout partis parce que pour des raisons d'attitude. Alors j'espère que ces attitudes qui construisent l'unité sont quelque chose qui vous sont chers et qui favorisent le développement d'une vie de famille et qui permettent le développement, la vie des métaphores que j'ai évoquées en début de message. Et puis enfin, et le dernier point, c'est le fondement de l'unité. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez aussi été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Vous avez remarqué les répétitions de mots ici ? Tous et un autre, seul, unité, diversité. D'ailleurs, en philosophie, c'est très intéressant, cette unité, diversité. C'est le reflet de la Trinité. Enfin, les profs de philo ne le voient pas, bien sûr. Mais je vous donne... vous voulez acheter une moto. Et vous voulez acheter la moto. Mais ça n'existe pas, la moto. Il n'y a que des motos. Et chacune a des qualités et des défauts par rapport à ce que vous voulez faire. Vous voulez acheter le stylo. Le stylo. Ça n'existe pas. Il y a des stylos. Unité, diversité. Et en fait, toute cette notion que l'on a, qui rythme nos vies et nos pensées, elles sont tirées de cette notion que nous sommes issus d'un seul Dieu qui est trinitaire, unité, pluralité. Et on voit que l'Église, elle est à la fois ce qui est lié par l'Esprit-Saint, un seul corps, ben, on a évoqué cela comme le corps du Christ, un seul Esprit qui nous remplit, qui nous abreuve, qui nous conduit vers les choses que le Christ nous a données par grâce. 1 Corinthiens 2 nous rapporte que le Saint-Esprit nous est donné pour qu'on sache toute la grâce qui vient avec Jésus. Et il nous donne cette même espérance qu'un jour nous serons ressuscités à l'image de Jésus. Lié au Seigneur, un seul Seigneur, bien sûr, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Un seul Seigneur, une seule foi, non pas dans le sens de la réponse à Dieu, mais une seule foi dans ce que Dieu nous a donné, la foi transmise au saints une fois pour toutes. Un seul baptême, il faut savoir que les Juifs pratiquaient le baptême dans des mikvés, c'était à la fois des rites purificateurs quotidiens pour certaines sectes ou groupes du judaïsme, et c'était aussi l'ultime étape d'un païen qui devenait juif. Et Jésus reprend cette symbolique très connue, il lui donne posture très chrétienne, en baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il y a un seul baptême qui nous unit, non, il nous unit. Il atteste de l'union que nous avons en Jésus-Christ par le baptême. Et puis, toute cette unité liée au Père, on a un Père qui est personnel, actif, qui est présent. Il est Père de tous, il est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Et pour toutes ces raisons, eh bien, nous devons vivre une Église unie. Alors, je termine. La recette de l'unité dans une Église, eh bien, c'est d'abord et avant tout une question d'attitude. Bien entendu que l'Église et les anciens doivent réfléchir aux valeurs qu'ils veulent mettre en avant, à la stratégie qu'ils veulent mettre en avant. Il y a du travail de réflexion pour qu'une Église progresse, certainement. Mais avant tout, c'est une question d'attitude. Et moi, la question que je voudrais vous poser, c'est quelle est la plus belle attitude que vous avez ? Parce qu'il faut célébrer les victoires. Nous, les évangéliques, on est un peu flagellants parfois, hein. Péché partout, et on a raison, le péché partout. Mais en même temps, il y a des belles choses que Dieu fait dans nos vies. Quelles sont les belles choses ? Il y en a qui pardonnent vite, il y en a qui sont toujours joyeux, il y en a qui sont... Il y a des attitudes qui comptent. On va célébrer ça. Dans un couple, parfois, on a besoin de mettre en avant certaines choses pour que le couple marche. Et la deuxième remarque, c'est que est-ce qu'il y a des fissures dans les relations qui exigeraient que peut-être, suite à ce message, vous dites... Je vais prier pour cette personne pour qu'il n'y ait pas de fissure entre nous. Et puis peut-être que dans ce qui vous a été dit, vous réalisez qu'il y a une attitude qui a besoin d'être mise devant la croix, dans la repentance et la foi, et en priant que Dieu la développe parce qu'elle est absente en vous ou bien parce qu'elle s'exprime incorrectement. On prie. Dieu et Père, tu as... Priez que ton Église soit une, et elle le sera. Quand tu reviendras, Père, il n'y aura aucune ambiguïté dans l'unité de tous ceux et toutes celles que tu auras sauvés. En attendant ce jour, je prie que tu bénisses cette assemblée pour donner l'unité qui reflète ton intention. Tu permettes le développement d'attitudes à l'honneur et à la gloire de Christ. Je prie que tu bénisses, Père, chacun, et que la personne de Christ, dans son salut, devienne si précieuse qu'elle soit le centre de la passion et de la vie de chacun. Pour ta gloire. Amen.